Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission européenne de Radio Judaïka, RCF Alsace, réalisée avec le Centre Europe Direct de Strasbourg. Alors, lundi 21 février, Vladimir Poutine reconnaissait les républiques séparatistes du Donbass, Donetsk et Luhansk. Deux jours plus tard, le 24 février, une étape sans précédent était franchie. La Russie, par son président, annonçait une opération de grande envergure sur tout le territoire ukrainien, dont la capitale Kiev, pour dénazifier son voisin pro-occidental qui mènerait, selon ses mots, un génocide contre les russophones. Depuis, les tensions continuent de monter, les sanctions contre la Russie se multiplient, tandis que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Pour mieux comprendre et décrypter ce conflit, nous sommes ravis de recevoir dans nos studios Emilia Koustova, maître de conférences en civilisation russe à l'Université de Strasbourg et chercheuse au laboratoire groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques. Bonjour Madame Koustova.
Bonjour.
Alors, comme je le disais, l'idée de cette émission est de faire un peu un décryptage, une analyse de la situation, mais de la situation récente, pas seulement du conflit que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'Ukraine est une ancienne république soviétique, devenue indépendante en août 91, juste après la chute de l'URSS, suite à un référendum d'autodétermination. Si au départ, le pays a conservé des liens très forts avec Moscou, avec la Russie, des tensions sont apparues assez rapidement dès les années 2000-2004. Quelles sont pour vous les origines de ce conflit ?
Alors, je pense que, avant tout, la Russie elle-même, qui a acquis au même moment son indépendance, et il faut dire que ce soit en août 91 ou en décembre 91, quand la séparation, le divorce a été vraiment signé par les 15 républiques soviétiques, la Russie était plutôt confiante et enthousiaste à l'idée de rester un peu seule, mais quand même un très grand État, et donc de tourner une page de l'histoire soviétique et du régime soviétique qu'on était nombreux à ce moment-là à critiquer, à dénoncer, à rejeter. Cependant, cette période qu'on a appelée à l'époque la période de transition politique, économique, sociale, elle a été très difficile partout dans l'espace post-soviétique, en Russie comme en Ukraine. Et cette transition douloureuse a conduit rapidement à provoquer en Russie notamment un sentiment de regret, de nostalgie par rapport à ce qui était désormais vu comme un passé glorieux, un passé aussi d'une plus grande sécurité sociale pour beaucoup. Et cela, bien sûr, rencontrait, croisait des sentiments nationaux, voire nationalistes, que les Russes ont toujours portés, tout comme on peut les porter aussi les Ukrainiens, les Lituaniens, les Azéris, etc. Et donc, ensuite, on avait donc déjà ce ressentiment présent dans une partie de la société, de la population russe dans les années 90. Et puis, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, ce ressentiment, ce désarroi aussi qui accompagnait la disparition d'un grand empire et des tentatives de construire un État-nation, mais un État aussi multi-ethnique, multinational, qu'était resté la Fédération de Russie. Donc, ce sentiment, il a été très vite repris, aussi amplifié, puis instrumentalisé par ce nouveau régime qui était en train de se construire à partir de 2000 et qui a très vite fait le choix, donc au bout de quelques années, le choix d'une politique de plus en plus musclée dans l'espace post-soviétique que les diplomates et les politiques russes appelaient dès les années 90 espace, donc l'étranger proche de la Russie. On voit déjà dans cette vision une sorte de distinction entre les...
Une sorte de zone d'influence, c'est
voilà,
ça.
Une zone d'influence qu'on assume, qu'on revendique. Et puis à partir du moment où dans les années 2000, dans cette zone d'influence, l'étranger proche se manifeste des courants politiques et sociaux qui choisissent d'autres modèles, comme le modèle européen, comme ça a été le cas en Ukraine en 2004, puis de façon encore plus forte en 2014, à chaque fois, ça provoque une réaction de plus en plus exacerbée et de plus en plus violente de la part de la Russie poutinienne.
Quel est pour vous le tournant finalement entre la scission qui s'est passée entre l'Ukraine et la Russie, on va dire, de Vladimir Poutine, puisque c'est cette Russie-là qui est aujourd'hui au pouvoir?
Je pense que c'est ça, c'est ces deux moments, c'est 2004, puis 2014, sachant qu'entre les deux, il y a aussi une histoire politique, sociale très intense côté ukrainien. Un processus où à l'intérieur de la Russie, le régime devient de plus en plus, au contraire, figé. Donc il faut comprendre qu'ailleurs, ça bouge, en Russie, ça se fige. Il y a en parallèle un processus d'un renforcement économique et politique militaire russe. Je pense que là, il faudrait aussi penser à une autre date de 2008. C'est cette guerre éclair, guerre victorieuse menée par la Russie sur le territoire d'un autre État indépendant post-soviétique, la Géorgie, dans une situation qui nous rappelle beaucoup celle de l'Ukraine en 2014 ou aujourd'hui. Donc pareil, la Russie instrumentalise les conflits bien réels, les conflits interethniques qui existent sur le territoire géorgien, avec des républiques autoproclamées plus ou moins en rupture avec la Géorgie, donc la Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et elle utilise cet argument pour envahir un État indépendant. Et à partir du moment où cela passe finalement sans provoquer de très grandes, de fortes réactions de la communauté internationale, ensuite la Russie se sent de plus en plus libre d'agir dans son étranger proche, entre guillemets.
Alors si on veut comprendre, 2014 c'est donc les événements de Maïdan, hein, suite à un accord d'association avec l'Union européenne au départ, et ensuite on a donc l'envahissement de la Crimée, c'est un peu ça la chronologie des faits. Pour comprendre un petit peu, pour essayer de faire comprendre cette histoire avec la Crimée, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les événements suite à Maïdan, et un petit peu ce qu'est le Donbass, ce que ça représente vraiment.
Alors là, c'est dommage qu'on ne puisse pas montrer une carte à la radio. Oui. Hein, ce serait bien de pouvoir
le faire.
On
en voit beaucoup, malheureusement, en ce moment, du fait des événements.
Oui, elles sont assez angoissantes. Il y a déjà un conflit au sein de la société ukrainienne de plus en plus critique par rapport au gouvernement, qui est un gouvernement corrompu, un gouvernement qui obéit aux ordres qui viennent de Russie, qui choisit la Russie un peu comme modèle aussi politique, et qui, placé donc face à un choix soit pro-européen, soit un rapprochement encore plus fort par rapport à la Russie, cherche à choisir la Russie, ce qui provoque une explosion politique, sociale autour de cette image, ce lieu Maïdan. Et donc à ce moment-là, la Russie décide d'agir, le gouvernement russe agit de façon absolument inattendue pour tout le monde. Non seulement il condamne la révolution de Maïdan comme étant, en le présentant déjà face à l'opinion publique russe comme étant un résultat d'un complot financé par l'Occident, c'est explicite, et puis il mène une opération, encore une fois, une opération éclair qui prend tout le monde au dépourvu en Crimée en envoyant des forces militaires, mais un peu déguisées, etc. Et en utilisant le fait que la population de Crimée soit plutôt russophone et qui se sentant proche de la Russie, donc il utilise cela pour organiser en quelques jours un référendum, dont évidemment, qui ne peut absolument pas être perçu comme une expression de la volonté populaire, quelles que soient les positions.
Vu le contexte et tout
voilà,
ce qui s'est passé.
On ne peut absolument pas. Et donc, il organise, le gouvernement russe provoque ce référendum. À l'issue du référendum, la population criméenne est proclamée comme ayant choisi la Russie. Et donc, la Russie proclame l'annexion, enfin l'intégration de la Crimée. Sachant que la Crimée et la perte de la Crimée, je pense, elle n'a jamais été vraiment bien acceptée en Russie, puisque ça a toujours été vu comme un territoire russe qui, effectivement, on rappelle que jusqu'en 1954, la Crimée faisait partie de la République de Russie au sein de l'Union soviétique. Elle a été offerte, entre guillemets, en 1954 à l'Ukraine pour célébrer les 300 ans de, entre guillemets, réunification de la Russie et de l'Ukraine, etc., etc. Donc on est dans une histoire longue, on est déjà dans l'instrumentalisation de l'histoire. Et donc, cette annexion de la Crimée en 2014, ça provoque une véritable euphorie dans la société russe. La majorité soutient. Il y a des manifestations qui se tiennent dans les grandes villes pour protester, comme c'est le cas aussi aujourd'hui. Mais globalement, Poutine, il marque des points à l'intérieur de la Russie. Je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Le Donbass n'est pas la Crimée. L'atmosphère En plus, après deux années du Covid et de difficultés économiques, voilà, on est...
Mais le Donbass, donc là, on a donc deux régions à l'est de l'Ukraine. On a donc cette histoire de séparatistes. Et c'est ça qui n'est pas toujours compréhensible pour le, on va dire, pour le citoyen lambda qui essaie de comprendre. Qui sont-ils ? Y a-t-il vraiment des séparatistes ? Est-ce que c'est des séparatistes envoyés par la Russie ? C'est quoi exactement, donc, après les événements de Crimée, va suivre donc, l'histoire du Donbass ?
Voilà, la Crimée, ça se passe facilement. C'est un peu autre chose dans le Donbass. Alors que dans le Donbass, les populations russophones sont nombreuses. Il y a aussi des difficultés sociales assez importantes. Et c'est ce sentiment aussi, ce ressentiment, ce sentiment d'incompréhension de ce qui se passe, ce sentiment aussi de crainte par rapport à une identité ukrainienne qu'on ne partage pas nécessairement dans ces régions. Ces régions qui sont par ailleurs soumises à la propagande russe bien avant 2014. Là-bas, on écoute la radio russe, la télé russe, etc. Donc dans ces régions, il y a un rejet du Maïdan, de cette révolution pro-européenne. Et donc, les forces locales, en partie proches de certains milieux corrompus, parfois mafieux, etc. Donc, ces forces-là en profitent pour proclamer leur pouvoir et puis finalement de faire cession par rapport à l'Ukraine qui avait fait, le reste de l'Ukraine plutôt, qui avait fait un autre choix. Bon, là ça se passe avec beaucoup plus de violence puisque donc, la Russie n'arrive pas à mener une opération éclair comme en Crimée. Il y a des conflits armés, il y a aussi le reste de l'Ukraine, le gouvernement ukrainien qui n'accepte pas. Donc il y a des combats, il y a il y a des victimes, plusieurs milliers de victimes.
Oui, 14 000,
c'est ça. Donc c'est encore une toute autre histoire. Et voilà, quand on passe à la violence, ça ne fait que exacerber les déchirures, les divisions, et ça pousse aussi beaucoup de personnes qui, avant, arrivaient à concilier leur identité russophone, ukrainienne ou ukrainophone, mais russophone aussi, ça pousse beaucoup à choisir. Et donc, ça conduit finalement, ça nous conduit à la situation qu'on vit aujourd'hui. Enfin, ça prépare cette situation.
Alors, Madame Koustova, je mettrai encore une dernière question pour placer le tout et après, on avancera un peu avec l'actualité pure. C'est cette histoire des accords de Minsk. Donc, suite à ça, donc on a ces fameux accords de Minsk de 2015 qui sont un élément de la crise actuelle. Qu'est-ce que c'est exactement ces accords de Minsk ?
Alors, il y a eu deux étapes, donc les accords de 2014 et 2015, Minsk 1, Minsk 2, c'est assez technique, complexe, etc. Ils prévoyaient pas mal de choses pour justement mener à une désescalade, notamment parmi d'autres choses, on prévoyait des élections libres, démocratiques dans les territoires séparatistes. On prévoyait aussi un statut différent pour ces territoires au sein de l'Ukraine, donc avec un État construit plus sur un mode fédéral que unitaire. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc ça, c'était, enfin, tel que je le comprends, ce processus de Minsk, c'était pensé plus comme un processus que comme un traité qui délimite, qui fige, qui fixe. C'était plus lancer une sortie de crise. Ces accords ont été assez peu respectés par des deux côtés, et ce respect imparfait des deux côtés de ces accords, ça a été très fortement instrumentalisé aussi par la Russie, qui accuse bien sûr uniquement le gouvernement de Kiev de ne pas avoir respecté les accords, en y ajoutant des accusations absolument fantaisistes de génocide, etc., etc.
Alors je vous propose, maintenant qu'on a tout placé, de faire une petite pause musicale avec Peter Doherty et The Fantasy Life of Poetry and Crime, qui est une petite balade au bord des falaises d'Étretat qui va nous permettre un peu de nous éloigner des événements dramatiques qui se vivent actuellement en Ukraine.
Chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find in the fantasy.
see life, poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in a fantasy life, poetry and crime.
Retrouve pour la suite de cette émission avec Emilia Koustova. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg et spécialiste des questions des pays slaves. Maintenant, voilà, on a placé le tout. On arrive donc aux accords de Minsk qui n'aboutissent à rien, un processus qui n'avance pas. Finalement, qu'est-ce qui a fait monter la tension pour en arriver à ce conflit d'aujourd'hui ?
Je pense que ce qui fait monter la tension, c'est la volonté de Poutine d'en découdre avec l'Ukraine. On ne peut pas constater sur le terrain, même si c'est un terrain complexe, etc., mais sur le terrain du Donbass, par exemple, on ne constate pas de crise qui aurait conduit la Russie à faire un pas supplémentaire.
Mais si on reprend les éléments de langage de Vladimir Poutine, ces génocides, ces dénazifications sont vraiment les éléments portés par le Kremlin pour justifier cette invasion en Ukraine. Y avait-il donc, et c'est là vous y avez répondu, un danger imminent pour la population russophone qui justifiait cette entrée sur le territoire ukrainien ?
Bien sûr que non. Il n'y avait pas ce danger. Il y avait une volonté du gouvernement de Zelensky d'avancer, de se montrer aussi tolérant et de construire ensemble une société tolérante et plurielle. Et puis, donc, en revanche, du côté russe, il y a à la fois cette volonté d'en découdre et puis d'obtenir des garanties face à une menace qui est en partie construite par le gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'à nouveau, dans les relations internationales et au sein de l'OTAN, il n'y a rien eu de tel qui aurait
Du danger de l'OTAN qui s'approche, quoi.
Voilà. Mais alors que l'OTAN n'a pas bougé. Donc l'OTAN avait déjà bougé à la fin des années 90, dans les années 2000, etc. Il n'a pas bougé depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est une sorte de d'un dragon qu'on construit en Russie. Et on mobilise aussi cette référence que vous avez évoquée, la dénazification, le génocide, c'est encore autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se combinent des moments, des images fortes pour l'imaginaire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc la dénazification, bien sûr, c'est la référence à la victoire soviétique, qui aujourd'hui est vraiment instrumentalisée pour donner une légitimité au gouvernement et à la Russie sur la scène internationale. Quand on regarde, on est frappé par les prises de parole des responsables russes quand ils disent littéralement la victoire de mai 45 nous donne le droit de lutter contre le nazisme partout dans le monde et en Europe. Ils le disent noir sur blanc. Donc ce serait une sorte de droit moral, de droit suprême que la Russie aurait gagné grâce à sa victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et puis à cela s'ajoutent des références, je dirais, beaucoup plus modernes, comme celle du génocide. Donc c'est une notion qui était absente du vocabulaire idéologique politique soviétique. On n'y faisait pas référence, sachant que d'ailleurs la Shoah avait été diluée dans la tragédie du peuple soviétique. Et tout cela, on l'utilise pour justifier l'injustifiable.
Un autre élément du récit donc, de Vladimir Poutine, c'est le rejet de l'existence de l'Ukraine en tant qu'État lui-même. On a, lors de la conférence sur la sécurité organisée à Munich, hein, les 21 février, on a Volodymyr Zelensky, qui est donc le président ukrainien, qui déclarait « Nous n'avons ni armes ni sécurité, mais nous voulons simplement avoir le droit d'exister. » Pour Poutine, l'Ukraine, la Biélorussie forment un seul peuple, c'est ça?
Désormais, oui. Je dirais que maintenant, il est allé encore plus loin dans sa négation. Je pense que il faudrait faire ce travail, mais je pense au calme, de voir comment se cristallise s'affirme cette négation. Je pense qu'il y a même 15 ans, elle n'allait pas aussi loin, même en 2014, ce n'était pas encore le cas. Aujourd'hui, effectivement, il considère qu'au fond, les trois peuples ne font qu'un seul, et que donc il nie à la fois l'identité ukrainienne, son droit, le droit d'exister comme peuple, comme nation.
On voit aujourd'hui avec cette guerre les problèmes aussi des médias libres, et on a ces deux discours qui sont ces deux visions un peu du conflit, la vision, on va dire, ukrainienne qui est partagée par le monde occidental, qui nous est retransmise par des journalistes présents sur place, et la vision qui est présentée en Russie. Aujourd'hui, la Russie est tellement fermée que ça, elle ne peut plus voir ce qui se passe à l'extérieur. Comment ça se passe?
En voulant, on peut. On a accès. Il y a une partie de la société russe qui s'informe ailleurs que sur les médias officiels. Bon, il y a parfois des barrières techniques qui sont dressées, mais il y a aussi des moyens de les contourner.
Des VPN, des choses comme ça.
Des VPN, torrents, etc., etc. Donc, bon, évidemment, dès qu'on dit ça, on comprend que ça ne peut pas concerner un citoyen lambda. Ce sont plutôt des jeunes des grandes villes qui le font. Mais sinon, en voulant, on peut s'informer, mais il faut s'informer ailleurs qu'à la télé, ailleurs que dans la majorité de la presse écrite. Pour la télé, il y a une seule quasiment chaîne télé qui n'est pas facile d'accès, qui est libérale et relativement libre, même si eux aussi, ils sont obligés de respecter les contraintes qui relèvent d'une véritable censure. Donc aujourd'hui, depuis le premier jour du conflit, les autorités russes ont dit que les médias russes avaient l'obligation de s'informer et de reprendre les informations de sources officielles, d'une part, et puis deux jours plus tard, une nouvelle consigne explicite, ne pas utiliser les mots tels que « guerre », intervention, agression, attaque, invasion, etc. Donc c'est officiel. Donc il y a cette chaîne télé qui existe encore. Il y a a priori un journal plus ou moins lu, Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef a eu le prix Nobel.
Ce fameux site qui avait aussi fait un journal en deux langues.
En deux langues, oui.
Russe et ukrainien. Oui.
Ouais, ça c'était super. C'était dès vendredi. Ils ont sorti ce journal en deux langues, ce qui est bien sûr un message très fort. Mais voilà. Et puis il y a bien sûr tout ce qui est l'internet, où il existe des médias qui n'existent que sur internet, en langue russe, qui sont de grande qualité et qui essaient...
Il n'y a plus d'opposition non plus, il n'y a plus de discours de l'opposition dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on n'entend personne d'autre.
Oui, effectivement, mais c'est parce que l'opposition a été vraiment anéantie. Enfin, Navalny a été le dernier, quasiment. Bon, il y a encore quelques hommes et femmes politiques qui ne sont pas en prison, mais ils n'ont pas de parti sur lequel ils pourraient s'appuyer. Donc, effectivement, l'opposition est quasiment inexistante.
Alors, la question est, tout le monde se la pose, mais quels sont les véritables objectifs, selon vous, de Vladimir Poutine? Et la question qui sous-tend, est-ce que vous avez été surpris, finalement, par cette invasion?
Oui, je vais être très franche, j'ai été très surprise. Bon, il y a bien sûr la dimension émotionnelle. On a du mal à croire que ce soit possible, que les chars russes marchent sur Kiev. Mais au-delà de cette dimension-là, je pense qu'on a été tous surpris. On a vu aussi quand même la sidération. Enfin, le mot sidération, c'est le mot qui a dominé, je pense, dans les médias francophones jeudi, avec à côté un autre mot, irrationalité.
On a du mal à imaginer en fait une victoire, même si la victoire militaire, on la voit, parce qu'il y a quand même des forces très asymétriques en présence entre les Russes et les Ukrainiens. Mais on s'imagine quelle victoire pourra-t-il avoir avec aujourd'hui, on voit bien que le sentiment national ukrainien est fort, et comment il va arriver à se maintenir, à rester et à occuper un pays tel que l'Ukraine.
C'est la question que tout le monde se pose. Déjà, on essaie de comprendre ce qu'il veut au-delà des garanties. Donc, en décembre, il a exigé que, de la part à la fois de l'Ukraine et de l'Occident et de l'OTAN notamment, des garanties du non-élargissement de l'OTAN et puis le retour en arrière sur certaines bases, etc. Donc ça, il va bien sûr maintenir cette revendication-là. Mais il maintient aussi actuellement cette revendication parfaitement floue de dénazification, que je comprends comme comme une volonté de remplacer le gouvernement de Zelensky par un autre gouvernement qui serait beaucoup plus obéissant ou parfaitement obéissant à la Russie.
Ce qu'il y avait avant, oui.
Oui, et ce qui, évidemment, ne va pas être accepté par le peuple ukrainien, qui est extrêmement mobilisé et qui, vraiment, c'est assez admirable.
Et symboliquement, on a cette demande d'adhésion à l'Union européenne qui est arrivée
tout
hier et qui est un fort symbole, parce que maintenant, il va falloir revenir sur cette demande d'adhésion, qui est quand même une demande d'adhésion officielle.
Oui, tout à fait. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension territoriale. Jusqu'où va son ambition dans la matière du territoire? Est-ce que, déjà, il a dit, lundi 21 février, il a dit que la Russie reconnaissait les deux républiques autoproclamées dans les limites que ces deux républiques ont définies elles-mêmes pour elles-mêmes. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'elles occupent actuellement. Et en plus, dans le discours de Poutine et de son entourage ces derniers jours, il a évoqué aussi des villes russophones du sud de l'Ukraine, ce qui signifierait que ça ne se limiterait pas aux deux régions.
C'est celles qui sont à côté de la Crimée, c'est ça?
Tout à fait. Donc plutôt sur les bords de la mer Noire. Donc c'est Mariupol, c'est potentiellement Odessa. Voilà, donc jusqu'où ira cette ambition? Et on a eu déjà de l'autre côté des déclarations des pays occidentaux qui ont dit qu'ils n'allaient pas reconnaître toute concession territoriale faite dans ces conditions-là.
Alors je sais que vous n'êtes pas non plus une spécialiste des sanctions. Comment vous voyez-vous les sanctions européennes? Sont-elles, selon vous, à la hauteur? Vous aussi, pour les voir du côté russe, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il fallait faire? Comment vous voyez-vous ces sanctions, je dirais, européennes, mais aussi, on va dire, des autres partenaires de l'Union européenne?
Je pense que ces sanctions sont déjà allées plus loin que ce que Poutine et son entourage attendaient. Bon, ils étaient en partie préparés, mais il y a quand même déjà 8 ans ou 7 ans d'expérience de sanctions, donc ils ont eu le temps de voir comment agir. Je pense que ça est allé plus loin. On peut imaginer que ces sanctions provoquent rapidement une grande dérégulation, une déstabilisation du marché financier en Russie, mais aussi de tout simplement de la sphère bancaire. Donc on a vu déjà des signes avec des distributeurs de billets fermés ou des queues qui se forment.
Et de la valeur du
rouble. Bien sûr, même si ce n'est pas la première chute que les Russes de leur devise nationale que les Russes vivent depuis 30 ans, mais quand même. Donc je pense que on peut imaginer des répercussions fortes et rapides, et j'imagine que, mais comme vous l'avez dit, je ne suis pas spécialiste des sanctions, mais je pense que c'est ce que visent les gouvernements occidentaux quand ils optent pour ces sanctions-là.
Et on peut imaginer une population qui se retournerait contre Vladimir Poutine. C'est là l'idée, on se dit que finalement, si nous, personne ne peut y arriver, est-ce que c'est la population en elle-même qui pourrait finalement se dire « nous, on en a assez de Vladimir Poutine ?»
On a vraiment du mal à le voir parce que aussi les miroirs ou les baromètres dont on dispose, ils sont en nombre limité. Il y a les sondages d'opinion qui, ces dernières semaines, soutenaient, mais sans beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, mais qui considéraient qu'en fait, la guerre est déjà en cours. Et là, cette opinion publique, elle reprend le discours officiel et propagandiste qui dit la guerre a commencé en 2014, tout simplement, maintenant, on veut en sortir. Et il y a ce soutien, mais assez tiède d'une partie de la population. Il y a une autre partie de la population qui est sidérée, qui pour une minorité proteste, et donc là je crois qu'on est à plus de 6000 arrestations depuis quelques jours, donc des gardes à vue, des arrestations, etc. Il y a une pétition russe sur Change.org qui a rassemblé en 5 jours plus d'un million de signatures. C'est beaucoup pour la Russie, c'est peut-être peu pour la France, c'est beaucoup pour la Russie. Voilà, donc il y a quand même des signes d'un rejet plus ou moins clair de cette politique, mais qui n'est pas encore partagé par des couches suffisamment larges pour que ça pèse sur la politique poutinienne.
Alors, Mme Kousova, j'aimerais terminer cette émission. Alors, je sais que là aussi, les choses évoluent très vite et on voit bien que sur le front, c'est très difficile ces derniers jours. Quelle pourrait être finalement la sortie de crise ?
Espérons peut-être que la raison n'est pas complètement quittée, le camp russe et les élites russes. Espérons peut-être que l'entourage de Poutine se montre plus raisonnable que le leader et qu'il arrive à exprimer ses réserves quant à l'utilisation de certaines solutions. Voilà. Mais je pense que de toute façon, le fait que l'Ukraine tienne et se montre vraiment solidaire de son gouvernement, bah, c'est déjà un moyen de démentir cette idée selon laquelle la nation ukrainienne, l'identité ukrainienne n'existerait pas. Donc c'est déjà très important. Et puis je pense que la réponse occidentale et du monde entier, c'est très important aussi. Il faut qu'on reste aussi très mobilisé et il faut peut-être aller plus loin encore en utilisant tous les moyens non militaires pour riposter.
Alors merci Madame Koustova de nous avoir consacré ces quelques minutes là pour cette émission. Je pense que vous nous avez éclairé sur de nombreux points. Je rappelle que vous êtes donc maître de conférence en civilisation russe à l'université de Strasbourg et chercheuse au laboratoire groupe d'études orientales slaves et néo-hellénique. Merci beaucoup.
Merci.